de CKUT 90.3 FM à Montréal. Ça, c'est Free City Radio. Je suis Stéphane Christophe. Je suis avec vous tous les mercredis à 11h sur les ondes de CKUT. Merci pour rejoindre nous aujourd'hui. C'est le 18 novembre 2020. Aujourd'hui, dans l'émission, nous commençons en fait avec une discussion avec Emery Muazulu Diabanza, un militant basé en France qui fait des actions dans les dernières années pour protester en fait la réalité coloniale dans les contextes des musées et des galeries d'art en France. Emery fait des actions directes populaire pour protester en fait la présence de les objets africains dans les musées, dans les galeries d'art en France. Emery demandait un retour en fait de tous les objets volés dans les contextes des actions coloniales faites par la France en Afrique. Récemment, j'ai appelé Emery pour parler de cette vague d'action Emery fait avec un appui de beaucoup de gens qui combattent le colonialisme moderne dans les contextes de France. Ça, c'est la discussion nous fait.
Notre travail est inscrit dans une logique qui, pour nous, semble être la logique qui privilégie les valeurs de justice, d'équité et de paix. Les valeurs de justice veulent que le patrimoine africain se retrouve en Afrique et que le peuple africain puisse avoir accès à son héritage culturel. Nous avons entamé ce travail dans des musées à travers ce que nous qualifions, nous, la diplomatie active. La diplomatie active est notre façon d'agir. Cette façon d'agir est définie d'abord par un principe qui est clair, de ne jamais demander au voleur la permission et l'autorisation de récupérer ce qu'il a volé. C'est pourquoi nous allons dans ce sens. Mais la diplomatie active veut aussi que nous plaçons l'intérêt supérieur de notre peuple et la dignité collective au-dessus de tout artifice protocolaire, de tout artifice sécuritaire ou de tout artifice judiciaire qui sont pour nous des entraves et des mesures des intimidations pour nous éviter d'aller vers la récupération de notre patrimoine. Et nous voulons aussi, à travers ces actions, notamment toucher l'opinion publique internationale et mondiale, afin que cette opinion se saisisse de cette question épineuse, notamment de la restitution de notre patrimoine, mais aussi que l'opinion se prononce sur le comportement des différents gouvernements, États, royaumes, qui, dans une atmosphère de violence, des crimes et des pillages ont pillé notre patrimoine et héritage.
Aujourd'hui, encore beaucoup de musées parlent d'une réalité postcoloniale. Votre travail illustre bien le colonialisme, c'est pas fini. C'est possible pour faire un commentaire sur ce discours de postcolonialisme dans les musées, dans les mondes artistiques et pourquoi c'est important pour critiquer ce discours.
Déjà parce que le processus qui consiste à détenir de façon illicite et illégale nos œuvres d'art et notre patrimoine fait partie du colonialisme, d'une politique coloniale. C'est toujours la colonisation qui continue parce que quel était l'objectif de la colonisation? L'objectif de la colonisation était de briser l'identité de peuples qui ont été opprimés et colonisés et de surseoir une forme de culture et, si l'on veut, d'une manière de vivre venue des colonisateurs. Et aujourd'hui, en empêchant les Africains d'avoir accès à leur héritage, en continuant à exhiber et exposer à tout vu certaines de nos œuvres sacrées devant les yeux du monde entier et le refuser aux Africains le droit d'avoir accès à ça, démontre encore qu'il y a les sentiments ou, si vous voulez, les démons coloniaux qui prédominent encore dans la politique artistique des différents pays et dans leur politique culturelle. Parce que ces œuvres-là, pour la plupart, certains d'ailleurs, certains des chefs-d'œuvre de ces œuvres-là sont considérés comme des butins et des trophées de guerre par certaines personnes. Je cite par exemple le cas de Del Comine qui a pillé la pièce Nekuku en République démocratique du Congo, dans le village Kikuku à Boma. Il considère que ces pièces-là, il les considérait à l'époque et jusqu'aujourd'hui, il a laissé au musée de Tervuren et d'Anvers. Et cela considère cette pièce-là comme un trésor de guerre. L'État français considère l'ensemble des pièces qu'il y a au Quai Branly et au musée Mamoa de Marseille comme des trésors de guerre, comme des pièces et des trophées qui ont été mérités par ces militaires qui ont tué, violé et massacré. Donc, pour nous, le fait de garder simplement ces musées en place avec des œuvres que tout le monde reconnaît qui ont été volées et pillées, plébiscite la colonisation et les actes, les crimes qui ont été commis pendant la colonisation. Il n'y a aucune volonté d'ailleurs de réparation et de passer à ces processus post-colonial. D'ailleurs, on ne peut pas passer dans le processus post-colonial, d'autant plus que le processus de la décolonisation des mentalités et des cultures africaines n'ont pas été achevés. L'homme et la femme africaine n'ont pas fini aussi leur processus de décolonisation parce qu'on leur a empêché de faire un choix à la liberté des religions, à la liberté d'exercer la religion de leur choix, parce que cela a été interdit par la colonisation, brisé par la colonisation, les artefacts et les symboles religieux pillés par la colonisation, exposés ou dans des musées de pays qui ont commis des actes coloniaux et qui ont mis en place des politiques de colonisation. Donc on est toujours dans ces processus. C'est pourquoi nos actions vont dans le sens de stopper la spoliation de nos œuvres, de stopper la colonisation culturelle continue appliquée par les nations occidentales à travers la confiscation de notre patrimoine et l'exposition dans leurs différents musées.
Merci pour ça. Mon dernière question, c'est juste concernant vos décisions pour faire des actions dans des espaces musées. Beaucoup de gens font une critique contre les musées partout en France, ou Paris spécifiquement, ou aussi des autres locations, pour continuer cet acte colonial. Pour en fait faire des exhibitions avec des objets artistiques et culturels volés dans les contextes de colonialisme. Vous êtes décidé, en fait, pour faire des actions, pas juste des opinions dans les journaux ou sur les médias sociaux. Vous êtes faire des actions. C'est pas une chose facile. Pourquoi vous êtes prendre cette décision pour faire une action pour illustrer ce point important?
Parce que nous avons compris déjà que beaucoup avant nous ont émis des opinions, ont exprimé les aspirations et leur volonté de voir ces œuvres-là repartir chez leurs propriétaires légitimes. Je me rappellerai toujours de cette initiative prise par le président Mobutu en 1973 dans les officines de l'Organisation des Nations Unies où il sollicitait une résolution contraignant les nations européennes et les pays occidentaux et royaumes occidentaux de restituer ce qu'ils ont pris de force. Cette initiative est restée lettre morte. Le président béninois, pas fort longtemps, avait essuyé le refus catégorique du premier ministre français à l'époque, Jean-Marc Ayrault, qui a refusé notamment de restituer au Bénin ce qu'en était leur patrimoine. Le président du Nigeria, le président du Rwanda, le président et les sénats du Burundi sont dans la même logique qui consiste justement à demander et exiger, y compris le Ghana, aux nations européennes et occidentales de faire répartir ce qu'ils ont pris de force. Donc, toutes ces initiatives, pour nous, la plupart de ces initiatives, nous la considérons comme une forme de diplomatie active, pardon, de diplomatie dormante et passive, parce que ce sont des initiatives qui cherchent à demander ou à solliciter le bon vouloir du maître, de celui qui a pillé, à demander la permission à celui qui a volé. Or, nous avons décidé maintenant de passer par la diplomatie active, c'est-à-dire d'agir. D'agir pour contraindre ces nations maintenant à passer à l'acte. Parce qu'avec la parole, seuls, je pense qu'ils n'ont pas compris. Et notre action reste pacifique, non violente, notamment dans le cadre de notre militantisme. Et ce sont des actions qui sont politiques, parce que nous visons notamment à ce qu'il y ait des accords, des conventions, des résolutions internationales qui vont permettre notamment aux peuples déshérités de récupérer leur patrimoine. Nous voulons à ce que l'opinion de ces pays-là, mais aussi le peuple, j'allais dire, de pays européens et occidentaux, puissent saisir cette opportunité pour purger leur mémoire de tous ces siècles d'ignominie et de mensonges, afin qu'ils puissent se désolidariser de ceux qui, en leur nom, ont pillé. Et pour en arriver à ces résultats, il faut des actions. Il faut des actions concrètes qui, justement, vont matérialiser notre volonté maintenant de voir à n'importe quel prix, s'il le faut, et au prix de sacrifice qu'il faudra consentir, de voir ce qui nous appartient revenir à la maison. Parce que n'oubliez pas que ces œuvres-là ont été pillées à travers des actes de violence et de barbarie. Alors, pour question d'honneur et de dignité, pour honorer ces œuvres-là même et nos ancêtres, il fallait poser aussi des actes de dignité, de courage et de respect, qui ne consistent pas à violer, à tuer et à casser, pour montrer à ceux qui l'ont fait qu'il y avait d'autres façons d'agir pour pouvoir prendre ou demander le prêt de ces œuvres-là. C'est pourquoi nous sommes inscrits dans ces actions-là et des types non violentes et pacifiques.
Ça, c'est les voix de Emery Mwazulo Diabanza. C'est un militant basé en France qui fait des actions dans les dernières années pour protester, en fait, de la présence de les objets coloniaux dans les contextes des musées et de les galeries d'art en France. Emery a demandé, en fait, le retour de tous les objets volés par les autorités françaises dans les contextes du colonialisme en Afrique. Ça, c'est Free City Radio sur les ondes de CKUT 90.3 FM à Montréal. C'est le 18 novembre. Je suis Stéphane Christophe. Je suis avec vous jusqu'à 11h30 aujourd'hui. Merci pour rejoindre nous sur les radios populaires ici à Montréal, CKUT. Maintenant, j'ai juste visité une pièce musicale faite par l'artiste Booba ici à CKUT.
J'ai maillé, maillé, maillé déjà. J'ai pas baillé, baillé, fait des dégâts. Tyson Gribord de bombardier. J'vais te casser le dos, pas te marier. Me tiens pas la main, ça va parler. J'ai déjà le ballon baissé sur le palier. Comme autre tu mais oh, j'suis médaillé. Vamos, non, ce négro, allez, dalle. La cuenta fut très très sale. T'as à l'âge, j'vais la faire chialer. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te mailler, mailler, mailler. Ton nom de famille sera prise d'otage. À quoi sert d'être lion en cage? Envoie le H, les millions cash. Faut mailler, mailler, mailler. Madame la juge est lente de rage. J'ai mitraillé comme un sauvage. C'est pas le quartier qui me quitte. C'est moi, je quitte le quartier. J'ai maillé, maillé, maillé déjà. J'ai bataillé, taillé, fait des dégâts. Je n'entends pas toutes ces hyènes. J'suis pas en plein de thieboudienne. Même noir, je pourrais rougir de haine. Esclave n'a pas de remise de peine. Ceux qui ne veulent pas faire de business, oh, je vous en prie, descendez là. Le cours de tâche n'est qu'est en baisse. Serre-moi un shot de Mandela. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te mailler, mailler, mailler. Ton nom de famille sera prise d'otage. À quoi sert de pion en cage? Envoie le H, les millions cash. Faut mailler, mailler, mailler. Madame la juge est lente de rage. Travailler comme un sauvage. Lion de la terre en Gaïa R, j'ai fait ce qu'il fallait, fallait. Sénégal, DKR, génération boule, fallait, fallait. Il aimait l'Afrique, mais la moulin l'a poussé à tailler, tailler. Passe-moi les masses à Mamakosa, FL, Omar, Salvatrocha. Oh, négro n'a pas vraiment de chat. Le boule est plat, tu ne fais pas vraiment de squat. Pour toi, j'ai formule adéquate. Hypercute de gauche à droite. Tyson Gribord de bombardier, j'vais te casser le dos. Et la branche a trop accéléré, elle a gâté le rôle. Première roue arrière et des merdes, j'ai changé le port. Je suis pirate donc loup de mer, je peux te montrer les crocs.
Ça c'est Dakar, fait par les artistes Booba, ici sur Free City Radio, sur les ondes de CKUT 90.3 FM à Montréal. Je suis Stéphane Christophe et je suis avec vous jusqu'à 11h30 aujourd'hui. Maintenant, j'ai joué la deuxième partie d'une discussion que j'ai fait avec une militante, une Innu ici à Montréal qui travaille dans les secteurs de santé dans les territoires autochtones Innu et Inuit, Joanne Bourget. Joanne parlait de les réalités de les racismes systémiques ici à Québec et l'impact de ça pour les peuples autochtones, pour les Innu et Inuits spécifiquement, mais aussi en général de les réalités de les colonialismes modernes. Ça, c'est Joanne Bourget.
Pour moi, c'est tout le temps que j'ai passé là, même à travailler et tout, ça a été constamment, bon, d'essayer de voir comment on peut contrecarrer certaines de ces politiques-là dans le domaine de la santé, là où j'intervenais, contrecarrer de manière... en discutant avec eux, toujours en discutant avec eux, toujours en discutant, jamais en imposant, même si je voyais des choses qui m'affectaient, toujours en leur mettant la réalité telle que je l'avais, telle que j'avais accès à cette réalité-là, à ces politiques-là, je les connaissais, donc je pouvais les transmettre. Alors j'ai eu la chance de pouvoir transmettre à énormément d'Inuits toutes ces recherches-là, toutes ces politiques-là que j'ai entendues, et j'ai pu discuter avec beaucoup d'entre eux. Donc, les positions que j'ai maintenant ont été validées. Comme si je dis la raison pour laquelle les Inuits n'ont pas voté pour l'accord de Nunavik autonome, supposément autonome, c'est validé auprès d'Inuits qui sont conscients de cette réalité-là, qui eux-mêmes en sont venus à cette conclusion-là. Et j'étais là, j'étais dans les bureaux où on votait et je discutais avec eux. Donc, j'entendais, on a discuté ensemble, j'ai compris, j'ai pas tout appris par moi-même, mais j'ai validé certaines j'ai eu la chance de pouvoir valider en discutant avec eux. Donc, ils sont conscients. Beaucoup sont conscients, énormément. Le problème est, je pense, comme à travers... il y a des mouvements de riposte, il y a toutes sortes de tentatives. Bon, ils vont légalement, les gens y vont illégalement. Comme par exemple, à un moment donné, il y a eu des articles de journaux au Québec très discriminatoires, racistes, qui dépeignaient les Inuits comme des inhumains, des sous, des... Alors, ils sont allés en cour et croyez-le ou non, ils ont perdu. Même qu'il y avait une image évidente d'un Inuk enragé, en gros plan dans le journal La Presse, je crois, ou Le Devoir, je me souviens plus, un gros plan, un Inuk enragé, quasi fou, dont le corps était un chien, en forme de chien, et qui sortait comme ça de la toundra. Alors, ils ont dénoncé ça, ils sont allés en cours, ils ont perdu au Québec. Ils sont perdus au Québec, comme quoi c'est pas raciste, c'est une manière de voir, c'est artistique. Alors, vous voyez, je veux dire, c'est pas facile ici. Je suis pas certaine qu'à l'extérieur, ils auraient pas gagné leur cause, ils n'auraient pas allé plus loin. C'est vraiment, 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 vraiment fermé de dénoncer le racisme ici. Et on regarde la Cour, qu'est-ce qui s'est passé avec la commission Vient, où finalement, les conclusions, les résultats, ça a été de dire que finalement, c'est la violence à l'intérieur, il faut régler cette violence-là, envoyer du monde avec des outils. Des outils, ils en ont plein. C'est tous les outils du Sud. Tu sais, envoyer des outils de pour réparer, là. Et la seule chose au Québec qu'on accepte de parler, OK, quand on parle des Amérindiens, puis de la répression et de l'oppression et les difficultés, c'est le fait que les pensionnats. Après les pensionnats, puis les pensionnats, en majorité, c'est fédéral. Donc, il n'y a pas. Aujourd'hui, OK, si c'est pas leur problème interne de violence, de problèmes sociaux, d'administration, c'est les pensionnats, les résultats des pensionnats. Mais quand on regarde les politiques actuelles qui se poursuivent, on n'est pas sorti du bois. Et puis, ils ne sont pas sortis du bois. Et je crois que, avec l'aide de plus en plus, les Autochtones du Sud, les Premières Nations du Sud, intègrent les Inuits dans leur lutte. Quand on voit sur tous les plans, que ce soit artistique, que ce soit. Il y a vraiment une plus grande unité dans les dénonciations. J'écoute des journalistes. Autochtones qui de manière générale dénoncent l'ensemble de la situation. Il y a une écoute, je crois, beaucoup parmi les jeunes. Il y a une écoute chez les jeunes dans le Sud de vouloir voir la situation autrement chez les Autochtones qu'il y a actuellement, présentement. Encore une discrimination. Et dans notre système d'éducation, et je le répète, notre système d'éducation, tout, même au niveau économique, on leur donne aucune autonomie, on leur donne aucune possibilité de se développer économiquement, de développer. J'ai lu bien des choses où c'est refusé.
Oui, parce que tous les territoires, c'est encore contrôlé par le Québec. Oui. C'est pas. Une autonomie sociale, ouais. Autonomie politique, autonomie économique, ça n'existait pas.
Ouais. Ben, juste, même, ça va plus que ça, comment on s'approprie des choses d'une manière incroyable. Je ne suis plus certaine si c'est dans Pauvognitouk, il y avait une tentative de coopérative, les jeunes voulaient mettre une coopérative de recyclage du matériel de la dompe, qui est pas loin des villages. Chaque village a sa dompte. Alors, il y a beaucoup de recyclage à faire pour, par exemple, les skidous, parce que ça coûte une fortune faire monter le matériel et tout. Et en même temps, ben, ils sont débrouillards et c'est une question de survie. Les skidous, c'est ce qui leur permet de chasser, de pêcher. Et ils mangent encore beaucoup de, surtout les Inuits, mangent énormément des produits naturels. C'est la seule bonne nourriture dans le Nord. Oui. Qu'on n'essaie pas de nous faire croire le contraire, c'est la seule bonne nourriture. Alors, ils ont essayé et ils ont demandé un prêt, un avance au gouvernement. Après tout, c'est une coopérative qui... Ça a été refusé parce que la dompe ne leur appartient pas. C'est à nous, c'est sur nos terres du Québec du Sud. Alors, ce qu'on va faire, probablement, on va envoyer des bateaux. Si on voit qu'il y a du potentiel, on va envoyer des bateaux chercher de cette dompe-là. On va l'en faire, on va le recycler, on va leur vendre ça. Si on est prêt à faire ça. Tu comprends ce que je veux dire?
Wow.
Tu sais? Alors, c'est pour vous dire, c'est tout le temps de bois des roues, de bois des roues. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est très difficile de s'élever au-dessus de ça. Et ça, je dois dire que toute cette tentative-là de destruction économique, en plus politique, elle s'est accentuée depuis 95, depuis que je suis rendu là. Elle est encore plus agressive parce qu'on a encore plus de raisons de s'approprier de ces terres-là. On a encore plus raison d'avoir de ces ressources naturelles-là. Ouais. Et le Québec s'en fait un honneur parce que c'est une grande richesse. On est parmi les plus riches de nickel au monde. Et vous imaginez? Alors, on peut offrir des jobs à trois fois le salaire d'ici dans le Nord.
Ouais.
Alors, vous imaginez? Alors, c'est normal, économiquement, qu'on soit si agressif ici pour détruire. Mais ça prend... C'est pas en allant voir les aurores boréales pendant deux semaines que vous allez découvrir tout ça.
Ouais.
Il faut parler avec les Inuits, il faut vivre pendant... et c'est ce qu'on fait plus maintenant.
Oui.
Et c'est ce qui fait qu'on ne connaît pas la réalité. Et on base notre politique sur des évaluations superficielles. On arrive là à des problèmes sociaux. Bon, on va régler ça, mais en même temps, comment s'accaparer... De ce milieu-là, en montrant qu'on leur donne de l'aide.
Dans beaucoup de fois, la Commission royale du Canada, par exemple, qui a parlé de la situation de l'Inuit, des Autochtones en général, mentionnait bien beaucoup de les problématiques ben, toujours la distance entre les documents qui mentionnaient le problème et l'action en réalité, c'est comme un voyage cosmique. Ouais. Un voyage pas cosmique, mais dans un sens de distance, c'est comme... C'est pas dans les mêmes dimensions, là.
Non. Oui. Eh bien, il y a un article qui a été... un extrait que j'ai pris de la Cour suprême d'un acte en 2005. C'était une étude qui avait été demandée par l'Ontario, parce qu'il y avait des problèmes, pour expliquer les problèmes de violence chez les jeunes. Alors, il rapportait en 2005, la Cour suprême du Canada avait affirmé que les tribunaux ont reconnu que le préjugé racial contre les minorités visibles est si notoire et incontestable que son existence sera admise sans preuve à l'appui. Ils ont tout simplement pris connaissance d'office comme d'un fait social qui ne peut raisonnablement pas être contesté. Et les groupes racialisés sont très divers. Je vais te dire sur la partie des Autochtones, ici. D'autres groupes, je la misère à voir, notamment les peuples autochtones et les Canadiens et Canadiens d'origine africaine, continuent aussi de subir une forme beaucoup plus profonde et souvent plus virulente de racisme. Ça, c'est notre Cour suprême du Canada. Je reprends, on appartient. Il n'a pas écrit ça juste en fonction de l'Ontario et du Manitoba et de la Colombie-Britannique. C'est en fonction aussi du Québec. Arrêtons de nous mettre... Et Québec aussi, ça se fait... Alors, la Cour suprême, si l'article, si la conteste, ce qui avait été présenté ici à la Cour du Québec concernant les articles, la série d'articles, aurait gagné en Cour suprême.
Ouais. Ça, c'est la deuxième partie d'une discussion avec Joanne Borger, une travailleuse dans les systèmes santé publics qui travaille dans les territoires Innus et Inuit. Joanne est... des autres à critiquer les racismes systémiques ici à Québec qui impactaient disproportionnellement les peuples autochtones, les nations autochtones ici à Québec. Joanne est un militant autochtone, un militant pour les justices sociales pour un long temps ici à Québec. Ça, c'est Free City Radio sur les ondes de CKUT 90.3 FM. Je suis Stéphane Christophe. Je suis avec vous tous les mercredis à 11h sur les ondes de CKUT. Restez ici à CKUT, Radio Populaire à Montréal. Les prochaines émissions, c'est F-Files. Merci pour rejoindre nous aujourd'hui. Oh,
previously broadcast program.
Wake up, bitch, you better pump it to speed up.